Se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, une cuisine équipée, un chien, un compte commun, des disputes, des tabous, des malentendus. Pas très envie de parler là, mais très envie d'envoyer à la voisine des émojis aubergine, cœur, cœur, smiley, lunettes de soleil. Une engueulade majeure parce que c'était ton tour de sortir le chien, suivi d'un sexe torride et humide sur le plan de travail de la fameuse cuisine équipée, avec l'officiel et la voisine. Voilà comment les contes pour enfants et la fiction pour adultes pourraient décrire les relations amoureuses en 2019 si on arrêtait un peu de faire du couple monogame, discipliné et bien peigné la seule forme noble de relation entre deux êtres. Et si on admettait que les couples infidèles ne sont peut-être pas moins amoureux ou moins heureux que les autres? Voilà une question qui nous oblige à réviser entièrement nos attachements moraux, religieux et personnels à l'exclusivité sexuelle, et puis aussi à balayer devant nos portes. 8 Français sur 10 jugent la fidélité essentielle à la survie du mariage. 1 Français sur 3, voire 1 sur 2, est déjà allé voir ailleurs. Je suis pas scientifique, mais il y a un truc qui colle pas. Dans le débat de midi, on met les mythologies du couple à l'épreuve du réel, et puis aussi du virtuel, les nouvelles technologies ayant sinon brutalisé, au moins bousculé les rapports amoureux. Comment on s'aime en 2019? Vos questions, vos réactions, vos confessions, dès maintenant et jusqu'à 13h.
Le débat du midi. Nadia Dame, sur France Inter.
Et mes invités sont chacun à leur façon des spécialistes de l'infidélité. Bonjour Maya Mazorette.
Bonjour Nadia.
Et bienvenue sur France Inter.
Merci.
Vous êtes sexperte, c'est-à-dire journaliste spécialiste des conditions de des questions pardon de sexualité
pour et des conditions de la sexualité
et des conditions
aussi,
également, ça marche aussi pour GQ et pour le quotidien Le Monde. Je résiste pas à l'envie de citer certains titres de vos chroniques parce qu'ils sont particulièrement savoureux. La sexualité de l'art et du cochon, le gros pénis sans peur et sans reproche, ou encore parce que c'est d'actualité, c'est la rentrée. Votre liste de fournitures coquines. Il n'y a pas de stylo quatre couleurs ou de rapporteur dans cette liste.
Alors, on peut tout intégrer dans la sexualité, c'est ça qui est magique.
On va y venir peut-être ça aussi aux adjuvants à la sexualité. J'ai le plaisir également de recevoir Nicolas Rey. Bonjour Nicolas.
Bonjour Nadia.
Vous êtes écrivain. Votre dernier livre, Lettre à Joséphine, a été publié en janvier dernier au Diable Vauvert. C'est le récit d'une tromperie, d'une rupture et de ce que vous appelez vous-même le plus grand chagrin du monde, un truc à faire mourir sur place. Comment ça va aujourd'hui, Nicolas Rey?
Ça va un peu mieux, je vous remercie.
Vous êtes remis?
Mais je suis encore vivant, c'est déjà pas mal. Et je suis même retombé amoureux, pour tout vous avouer.
Ah.
J'y croyais pas moi-même. Ouais, ouais, ça m'est arrivé, ça m'est tombé dessus. Et donc, je suis très heureux depuis un an. Mais
et donc, un nouveau livre? Parce qu'à chaque histoire d'amour, vous écrivez un livre?
Un nouveau livre, une fois que l'histoire sera terminée, parce que le bonheur écrit blanc, donc faut que j'attende que le truc se termine et en chagrin d'amour pour en faire un livre. Mais j'espère écrire le plus tard possible.
En direct et par téléphone, Richard Memto nous a rejoint. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de philosophie et vous êtes aussi l'auteur d'un traité très moderne et très déroutant comme son titre, Sex Friends, comment bien rater sa vie amoureuse à l'ère du numérique chez Zone à la découverte. On a beaucoup décrit ce livre comme le nouveau fragment d'un discours amoureux. Ça vous va, j'imagine, comme comparaison d'être le Roland Barthes 3.0?
Ouais, c'est ça, c'est mais flatteur. Je veux finir un peu mieux que Roland Barthes.
Mais oui, je vous le souhaite aussi. Et j'accueille en direct et en studio Solène Payet, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue sur France Inter. Vous êtes directrice marketing et porte-parole de Glidden, le site de rencontres spécialisées dans les relations extra-conjugales. Ma première question, elle va être pour vous, Solène Payet. Au moment de la campagne publicitaire pour Glidden dans les transports en commun, c'était en 2015, vous avez été attaquée en justice par une fédération d'organisations religieuses plutôt conservatrices qui réclamait le retrait des pubs. On en est où de cette bataille juridique?
Donc, il y a eu un... C'est passé en cours de cassation. Non, ça a été jugé
oui,
en 2015.
Plein, plein
il y a plein d'étapes,
ouais.
En fait, c'est pour ça, c'est un petit peu long. Donc, on est toujours en cours sur ce sujet. Donc, il y a eu un jugement qui donc a dédouané notre marque Glidden sur toutes les accusations qu'ont pu faire les AFC. Et ils ont fait appel de cette décision de justice parce que ça ne leur suffisait pas. Et à l'heure actuelle, nous avons de nouveau gagné cet appel et il y a des possibilités qu'ils aillent plus tard en cours de cassation. Donc on attend encore à ce moment-là de savoir où ça ira.
Parce qu'on rappelle que l'un des arguments des détracteurs de Glidden, c'est de dire que ça fait la promotion publique de la duplicité, du mensonge et de la violation de la loi. C'est une question très naïve, mais c'est illégal d'être infidèle et d'encourager l'infidélité. D'un point de vue juridique, cette assignation, elle avait un fondement?
L'infidélité n'est plus illégale depuis 1975. On ne peut plus aller en prison parce qu'on est infidèle. Donc, il n'y avait aucune raison de nous insinuer.
Seulement 75 ?
1975, ouais. Tout à fait.
C'est fou.
Maya Mazorette, une toute petite réaction ?
Oui, donc 1975 pour la dépénalisation et fin 2015, la Cour de cassation a déclaré que l'infidélité n'était plus contraire à la morale. Ce qui est encore l'étape suivante.
Oui. Alors Nicolas Rey, vous l'ignorez sans doute, mais vous avez un point commun avec le chanteur Justin Timberlake. Chacune de vos histoires d'amour vous inspire un livre. Lui, quand il se prend un râteau, quand il tombe amoureux ou qu'il est cocu, il en fait une chanson. En 2002, il en a pleuré des rivières après avoir été trompé par Britney Spears.
Ah,
n'hésitez pas,
aussi,
vous aussi, n'hésitez pas, amis auditeurs, pendant ce long lame en toi, à nous écrire et à partager vos avis et votre expérience Justin Timberlake.
You were my sun, you were my earth. You didn't know all the ways I loved you, no. So you took a chance, made of a plan. But I bet you didn't think that they would come crashing down, no. You don't have to say what you did. Don't it make you sad about it? Told me you love me. Why did you leave me all alone? Now you tell me you need me. Can you call me on the phone? Girl, I refuse. You must have me confused with some other guy. The bridges go burn. Now it's your turn to cry. Said. It wasn't like you only talked to him and you know it.
Don't act like you don't know it.
All of these things people told me keep messing with my head. Should've picked honesty, then you may not have thought it. Don't have to say what you did.
I already know.
I found out from
him. Now there's just no chance.
No chance.
You and me.
You and me.
There'll never be.
And don't it make you sad about it?
Told me you love me. Why did you leave me all alone?
All alone.
Now you tell me you need me. Can you call me on the phone?
Can you call me on the phone?
Girl, I refuse. You must have me confused. Some other guy,
not like them, baby.
The bridges go burn. Now it's your turn.
It's your turn
to cry.
So call me a
river.
Go on and just
call me a river.
Go on and just
call me a river,
baby. Go on and just
call me a river.
Is done, so I guess I believe in. The damage is done, so I guess I believe in. The damage is done, so I guess I believe in.
You don't have to say,
don't have to say what you did.
I already know.
I already know.
I found out from him. There's just no chance.
No chance.
You and me.
You and me. Don't it make you sad about it?
Call me a river.
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 Midi 15 sur France Inter, au menu du débat de midi, une question délicate. Et si la fidélité, pas l'infidélité, la fidélité pouvait épargner et sauver le couple? L'émission a été préparée par Caroline Pomès, à la technique aujourd'hui Rémi Sistiaga et Tristan Gratalon.
Mel, assieds-toi, faut que je te parle. J'ai passé ma journée dans le noir. Ça fait 2 mois que je sens son odeur.
Quoi?
Qu'elle laisse des messages tous les quarts d'heure.
Mais non.
J'ai infiltré son répondeur. Mon mec se tape une autre femme, ouais.
Tu veux savoir si je t'ai trompé avec lui? Hein? C'est ça que tu veux entendre? Oui, je t'ai trompé avec lui. Oui, dès que t'avais le dos tourné, hop, je venais le rejoindre.
J'ai un amant pour le jour et un mari pour la nuit. J'ai un amant pour l'amour et un mari pour la vie. Si je le trompe le jour, je suis fidèle la nuit. Ma vie se passe toujours en ciel de lit.
Faites-moi votre maîtresse.
Oui, oui, tout de suite.
Je suis terriblement excitée.
Moi aussi, ça commence.
Au sujet de ton amant.
Parce que je veux dire, c'est si je prenais un amant, je prendrais pas Polo, tu vois.
Bon, je pourrais.
C'est pas du tout ma maîtresse, c'est l'autre abruti qui a inventé ça.
Écoute, Polo, t'as trompé ta femme, elle le sait pas et tu regrettes. Donc t'es un mec bien, Polo. Tout va bien. All is alright, ok?
Je crois que ma femme me trompe, mais je tiens bon. Je me fais traiter de tous les noms et je tiens bon.
J'ai pris l'amant pour mari et un amant pour amant qui deviendra mon mari aussi longtemps que je n'aurai pas envie de prendre un nouvel amant qui remplacera mon mari en attendant.
Et vous aurez corrigé de vous-même, j'ai dit n'importe quoi juste avant, c'est évidemment l'infidélité qu'on va essayer de réhabiliter dans le débat de midi. C'est un sujet qui est très complexe, on va commencer avec une question simple. A priori, en tout cas, Maya Mazorette, ça commence où l'infidélité? Un baiser avec la langue, sans la langue? Un sexto, du badinage, un rêve érotique avec un autre? Quand est-ce que ça commence?
Alors, la plupart d'entre nous sommes d'accord sur le fait que si on couche avec quelqu'un d'autre, 95% des Français pensent que c'est de l'infidélité.
Coucher, c'est tromper.
Ensuite, 85% pensent qu'embrasser, c'est tromper. Et ensuite, si vous allez de l'autre côté du spectre entièrement, il y a des gens qui pensent qu'avoir un rêve érotique, donc là c'est complètement involontaire, c'est tromper. Donc on met un petit peu la barre aussi là où ça nous arrange, je pense. Mais disons que c'est de l'infidélité quand on fait avec une autre personne ce qu'on fait d'habitude, seulement dans le couple.
Donc effectivement, l'infidélité, ça n'est pas que sexuel. Donc.
Non, ce n'est pas que sexuel. Et là, en fait, c'est assez intéressant parce qu'il y a d'autres types d'infidélité dont je vais parler juste un petit instant. Par exemple, il y a l'infidélité financière. Il y a l'infidélité avec report sur un objet quand on tombe amoureux de sa tortue ou de sa PlayStation. Il y a l'infidélité émotionnelle, l'infidélité de bon droit quand on estime que de toute façon, l'autre nous délaisse. Donc dans ce cas-là, autant prendre des libertés. L'infidélité de sabotage qui consiste à détruire son couple et à ce que ça soit su. De la vengeance, l'infidélité opportuniste, quand on se trouvait là par hasard et que voilà, ça s'est passé comme ça. Donc on parle d'infidélité de manière générale, mais ça recouvre en fait plein de situations qui vont de presque rien du flirt jusqu'à la double vie.
Solène Paillet, sur Gliden, vous enquêtez auprès de vos internautes pour connaître leurs motivations et les conséquences sur leur couple. Ça s'appelle Parole d'infidèle. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qui les a décidés à tromper leur partenaire et qu'est-ce qu'ils en ont retenu, gardé, gagné?
Bah, on a plein de profils différents en fait. L'infidélité a autant de motivations qu'il existe d'infidèles. Sur Gliden, principalement, les gens cherchent un peu d'extra dans une vie un peu ordinaire. C'est pour ça qu'on écrit le extra conjugal en 2 mots. Ils viennent chercher une bulle d'oxygène. C'est vraiment les mots qu'ils décrivent. Un espace, un jardin secret, ils peuvent comme ça avoir
quelque chose de privé au sein de leur couple.
Enfin, exactement, exactement. On a pas mal de j'ai d'ailleurs un témoignage, si vous voulez, d'un membre que je trouve intéressant. C'est un homme. Nous, on reçoit plutôt des témoignages de femmes. Elles préfèrent se livrer par écrit plus que les hommes. Mais cette fois-ci, c'est un homme. Je peux vous le lire si vous voulez.
Bien sûr, on vous écoute.
Donc, c'est un homme qui a la quarantaine, qui habite en Île-de-France. Il m'écrit, il y a 5 ans, mon couple battait de l'aile, clairement, avec des prises de bec assez fréquentes qui n'étaient que le reflet d'un mal-être chez ma femme et chez moi aussi. L'arrivée de notre enfant avait effectivement créé un vide entre nous que nous n'arrivions pas à combler. Il y a 5 ans, donc, et fière d'une fidélité exemplaire, je me suis posé la question de franchir la ligne rouge, de passer le cap et de rentrer dans le monde de l'adultère. Résultat des courses, 2 ans de bataille acharnée avec ma conscience. Donc déjà là, on se rend compte que l'infidélité, c'est pas quelque chose qui est forcément impulsif et spontané. Je continue. Le sentiment de culpabilité ne me lâchait pas avant même d'avoir fait quoi que ce soit. Je ne pensais pas être fait pour une relation extra-conjugale, même si j'en avais terriblement besoin et envie. Besoin d'affection, d'écoute, de tendresse, de dialogue, de sexe aussi. Donc là, on comprend bien les motivations. J'ai fini par m'inscrire sur Glidden il y a 3 ans, juste pour voir. Et là, l'imprévisible est arrivé. Mmh. En très peu de temps, finalement, tout juste 10 jours, j'ai rencontré Émilie, avec qui je vais revivre et reprendre goût à la vie. Une femme pour qui j'ai vibré comme je n'avais jamais vibré depuis longtemps. On se voyait 3 à 5 fois par mois, juste assez pour subvenir à notre manque de l'autre. Des soirées à papoter, à rire, des nuits à faire l'amour, comme on avait 20 ans. On s'est aimé comme des ados peuvent s'aimer au lycée. D'un amour fou, limite dangereux, mais nous étions intransigeants sur la discrétion. Rien ne s'est vu, rien ne s'est su. L'infidélité, si ça ne se sait pas, ça ne fait pas souffrir.
Ah, alors, on va rentrer dans le dur du sujet, effectivement, sur le secret et la trahison. Nicolas Rey, vous nous avez dit en préparant l'émission, tromper quand on est amoureux, c'est stupide. Qu'est-ce qui est stupide? C'est de tromper ou de se faire choper?
Non, je crois que c'est de se faire choper, quoi, vraiment, qui est stupide. Parce que sinon... En amour, en fait, c'est tout simple. L'amour, c'est la phrase de Mac Wilson dans Eureka Street qui dit « Toutes les histoires sont des histoires d'amour ».
Le roman irlandais, oui.
Ouais. Et donc, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de loi en amour. C'est dans le film de Capra, La vie est belle, quand James Stewart rentre chez lui et il est dans le jardin avec sa mère. Et sa mère lui dit « Il y a cette jeune Madeleine, là, tu ferais bien de la revoir et tout. » Et James Stewart lui dit « Non, mais elle est fiancée maintenant. Elle est fidèle à son fiancé, c'est impossible. » Et la mère se tait et James Stewart regarde sa mère et lui dit « Ah oui, je sais ce que tu penses. Tu penses qu'en amour, comme à la guerre, tous les coups sont permis. » Et sa mère de répondre « À la guerre, non, mon chéri. » Donc voilà, on en est là, en fait. Ce qui me touche dans le témoignage de ce jeune homme, parce qu'il a 40 ans, donc c'est un jeune homme
que vient de citer Solène Payet, donc client de Glidden,
que vient de citer Solène, c'est qu'en fait c'est pas une question d'infidélité, c'est juste qu'il avait besoin d'amour, quoi, je pense. Et sinon, dans votre introduction, vous avez dit que il y avait une femme sur deux qui trompait. Donc là, il y a 3 femmes autour de moi. Donc ouais, là, ça
vous
fait.
Vous avez fait le calcul.
Alors, laquelle est fidèle du coup?
Alors moi, je peux répondre.
Maya Mazorette.
Moi, mon contrat de couple, su de tous, c'est qu'on fait ce qu'on veut.
Ah d'accord.
Voilà. Donc moi je veux bien me dénoncer pour les copines qui ensuite pourront se taire et cacher leurs propres infidélités.
Solène Payet se
fait
toute petite.
Non, pas du tout.
Vous en êtes tout sentimentalement.
Moi je suis en relation et c'est une relation qui est très très nouvelle. Donc pour l'instant je ressens pas du tout le besoin.
D'accord.
On verra avec les années.
Ça va pas du tout, ça va pas du tout avec votre job ça. Ça fait tout nouveau, ça fait 1 an. Donc non, je suis fidèle et heureux là, vraiment.
Pour l'instant, donc c'est ça.
Pour l'instant, ouais. Ouais.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est que là, vous considérez que vous n'avez pas encore eu besoin d'en discuter. Normalement, si vous étiez par exemple des Américains, vous auriez eu la conversation.
C'est quoi?
Au bout de 2-3 semaines, c'est-à-dire que vous auriez établi en fait les règles de votre couple. Là, comme vous en avez pas parlé, en fait. Par défaut, c'est la monogamie, mais comme vous en avez pas parlé, ça peut aussi être un dérapage. Et le jour où ça arrivera ou ça n'arrivera pas, vous pourrez toujours vous dédouaner sournoisement en disant que, bah non, on n'en a jamais discuté, moi je pensais qu'on était en couple ouvert, alors que par défaut, si vous en parlez pas, c'est fermé.
Richard Memto, je rappelle que vous êtes donc philosophe, prof de philosophie, fin limier des nouveaux rapports amoureux. Dan Savage, qui tient la rubrique Courrier du cœur et du sexe dans de grands hebdomadaires américains, dit « Il est bien sûr parfaitement normal d'avoir envie de baiser ailleurs quand on est monogame. » Vous souscrivez à ça?
Oui, bien sûr. Oui, j'ai la lourde responsabilité de souscrire à ça. Mais ce que je voulais dire avant, c'est que pour réagir à ce que disait Nicolas, c'était pour dire d'une certaine façon, je pense que l'amour suffit pas pour tromper quelqu'un. C'est-à-dire, ce qui est souvent cherché, c'est un espace clandestin. En dehors de ce qui a été officialisé dans un couple. Et en histoire, il y a par exemple une correspondance assez célèbre entre une femme mariée et un homme marié, et qui s'écrivent notamment pour trouver cet espace-là où ils peuvent être vrais. Et donc c'est un petit peu à mon tour de lire une partie de cette lettre.
Allez-y, déclamez,
Adèle,
on vous écoute. Ouais.
Adèle Schunk écrit donc à Aimé Guyet de Fernex. Je ne veux pas me parer davantage que je ne possède pas. Je désire que vous connaissiez tous mes défauts, que vous lisiez, s'il se peut, dans mon âme, tout ce qui s'y passe. Et je pense que l'infidélité est aussi une promesse de dévoilement de qui on est vraiment. C'est-à-dire, en dehors, encore une fois, de cet espace social qui a été créé par le couple. Et peut-être que là, il y a quelque chose que Glidden, par exemple, essaye d'entretenir. C'est-à-dire, c'est pas juste un site de rencontre où on va retrouver des histoires d'un soir. Mais il y a, en fait, encore dans Glidden, le mythe romantique du dévoilement total face à l'autre et même l'entretien peut-être d'un certain idéal romantique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir continuer à aimer. Alors que, en réalité, moi, je pense que peut-être plutôt comme Maya Mazoret, il faudrait redescendre un petit peu sur terre et juste se dire qu'on a des besoins et que si l'infidélité est uniquement sexuelle, elle n'est pas si grave. L'infidélité sexuelle,
elle n'est pas si grave pour celui qui trompe et pour celui qui est trompé.
Les deux. Non, mais sans faire trop de. C'est juste sans aller si loin. C'est-à-dire, le projet du couple se définit pas uniquement par l'exclusivité sexuelle et donc éventuellement le sacrifice de mes pulsions sexuelles. Si ça n'est que ça, le projet du couple, effectivement, c'est déjà pas grand-chose. Enfin, il fallait arrêter dès le début. Donc, heureusement qu'il peut y avoir une infidélité sexuelle. En revanche, l'infidélité à ce que les amants se sont promis, la confiance que les deux personnes se sont échangées, ça me semble plus grave. Donc en réalité, la vraie question, c'est à quoi on a envie d'être fidèle.
Nicolas Rey.
Oui, je suis assez d'accord sur l'infidélité sexuelle, mais encore faut-il ne pas se faire gauler, quoi, parce que moi j'ai un souvenir, vous parliez de lettres à Joséphine, j'ai un souvenir d'avoir trompé Joséphine sexuellement, et je me suis fait gauler parce que j'avais pris une photo de mon anatomie sur mon BlackBerry pour envoyer à
ce qu'on appelle une sexpic aujourd'hui.
Pour envoyer à ma maîtresse.
Big pic, ouais.
Et Joséphine était tombée dessus et c'était terrible parce que on était à Bruxelles, elle était tombée sur ce sexto, enfin sur, je sais pas comment ça s'appelle.
Une dick pic, nous dit Solène Payet.
D'accord, moi, les hauts points, Solène, c'est bien ça. Hyper hauts points. Et donc, elle était partie à l'aube de la chambre d'hôtel, dans le froid, comme ça, de cette ville, sous la pluie. Elle était rentrée frigorifiée, on aurait cru un petit oiseau malade, elle s'était effondrée dans la chambre d'hôtel, et je m'en voudrais toute ma vie d'avoir fait ça.
Vous vous êtes détesté à ce moment-là.
Ah, mais complètement. Et puis en plus, ça a un peu pourri dans l'œuf notre histoire, quoi. Ça a brisé quelque chose chez elle. Ça a brisé l'innocence de notre amour, quoi. Et oui, je m'en suis voulu énormément, il n'y a rien de plus con.
Maya Mazoret, là pour le cas de Nicolas Rey, c'était trop tard, il pouvait pas nier, mais est-ce qu'il faut avouer ses incartades?
Là, il y a une petite confusion entre infidélité et irresponsabilité. Je pense qu'on est archi responsable quand on est infidèle, il faut faire attention à pas blesser la personne qu'on aime.
Ouais, vous avez
et
raison.
Et là, sur la dick pic, erreur de débutant Nicolas, erreur de débutant.
En plus, j'ai pas de mot de passe sur mon portable. Moi.
Ah oui, alors bah, vous cherchez les problèmes aussi, Nicolas Rey.
Donc, j'arrive pas, sinon je les oublie en fait.
Faut les supprimer, sinon les photos.
Bah oui.
Richard Memento, est-ce qu'on peut, être loyal et infidèle, et à l'inverse, est-ce qu'on peut être fidèle et pas être loyal dans son couple? Est-ce qu'il faut faire une distinction entre la fidélité et la loyauté et l'honnêteté?
Oui, bah, en fait, c'est pour rebondir un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure. C'est effectivement être fidèle à un projet commun, c'est être loyal. Et puis, dans ce cas-là, ça n'implique pas forcément la fidélité sexuelle. Mais c'est vrai que le problème de ce truc, qui est notre réaction à l'infidélité sexuelle, c'est qu'en fait, on va avoir des sentiments et des sentiments violents si on n'arrive pas à canaliser ou à, comment dire, maîtriser sa jalousie. Et si même pire, on pense que la jalousie peut être une sorte de moteur nécessaire à l'amour. Bon, bah voilà, vous vous engagez dans une relation qui est quand même assez passablement destructrice. Et effectivement, j'aurais tendance à dire que si vous avez défini ce but, ce projet commun, la loyauté sera, vous élèvera un petit peu, spirituellement, quoi. Ouais. Parce que sinon, effectivement, on pourra pas s'empêcher de se demander mais qu'est-ce qu'a fait l'autre dans tous les détails, etc. Alors que c'est une question qui pourrit un petit peu l'esprit.
Alors je vous livre un témoignage envoyé par une auditrice qui nous écrit ceci. J'ai vécu et vis encore des relations avec des partenaires de manière non exclusive. J'ai jamais vécu ça comme une tromperie, mes partenaires non plus, puisque nous étions au courant de la situation. Maya Mazoret, il faut signer une forme de contrat, ce que vous évoquiez tout à l'heure, en préambule de chaque relation. Et du coup, ne pas avoir ce petit jardin secret dont vous parliez?
Alors, je pense qu'évidemment, tout le monde a ses préférences. Il y a des personnes qui ne supportent pas de ne pas tout savoir. Pour qui la confiance, c'est une question de tout mettre sur la table tout le temps. À titre personnel, je pense que l'infidélité, elle est intéressante justement parce que c'est un jardin secret et justement parce qu'on ne le révèle pas et que quand on se fait avoir par la dick pic,
comme Nicolas Ray,
on ment comme un nageur dedans jusqu'au dernier moment possible. Et qu'on a besoin d'un jardin secret et qu'on en a besoin aussi par rapport à nous-mêmes. C'est-à-dire que cette espèce de souhait de transparence totale qui est celui de notre société aujourd'hui, qui est une question qui dépasse de loin l'infidélité, nous piège parce qu'on croit qu'on peut tout savoir. Et je pense qu'on a aussi en nous des zones d'ombre qui font qu'on n'est pas toujours, qu'on est en fait très ambivalent. C'est-à-dire qu'on aime quelqu'un, on aime quelqu'un d'autre en même temps, on désire, on voudrait ne pas désirer. Et que l'infidélité permet finalement de rassembler les morceaux en n'essayant pas de se donner une cohérence qui me semble déraisonnable de souhaiter en fait.
Richard Memento, vous voulez réagir?
Oui, mais en fait, moi, je suis pas très d'accord.
Mais c'est un débat.
Juste pour une raison, en fait, c'est une raison très concrète à ça, c'est que si vous êtes infidèle, ça suppose d'échanger des fluides, et donc les polyamoureux parlent parfois de fluid bonding, c'est à vous lier par le fluide. Et ça, en fait, ça produit une forme de danger. Notamment, vous mettez juste une petite chlamydia dans une relation et vous voyez ce qui se passe.
MST, donc d'accord, on va parler
voilà,
de MST.
Là, vous pouvez plus tout à fait jouer la carte de « bon, bah, tant que tu sais pas, ça passe ». Et évidemment, je parle d'une MST relativement anodine, mais il y en a d'autres. Et donc, vous, je sais pas, des enfants, vous pouvez... Donc, en réalité, j'allais dire, être infidèle, c'est difficile parce que ça demande d'être honnête. Et être honnête, c'est un truc qui s'apprend. Enfin, je veux dire, c'est peut-être la seule raison qu'on aurait vraiment d'être fidèle avec quelqu'un. D'ailleurs, c'est de pouvoir être le plus honnête possible. Mais le côté un petit peu à l'ancienne, on va se cacher, pour moi, ne fait que, disons, entretenir une illusion qui pourrait être qu'on se croit tout à coup sorti comme ça de l'ensemble de l'écosystème sexuel avec toutes les maladies, tout le reste. On est bien dedans et se le cacher, c'est vraiment ça, à mon avis, moins responsable.
Maya Mazoret.
Je pense qu'on n'est pas tant en désaccord que ça. C'est juste que, comme je le disais tout à l'heure, il faut être responsable quand on est infidèle.
Nicolas Ray, vous vous trouvez irresponsable, léger dans vos relations?
Moi?
Ouais.
Non.
Est-ce que
non,
vous
non,
apprenez
non.
de vos erreurs à chaque fois et...
Oui, j'apprends de mes erreurs. Je suis totalement, surpris par le site de Solène. Alors j'avais une question à lui poser.
Solène Payet, porte-parole de Glidden, site de rencontres extra-conjugales.
Ouais. Donc c'est bien les gens mariés en fait qui font appel à vous, c'est ça?
Les gens mariés ou en couple principalement.
En couple, parce que ce que je trouve étrange, c'est que prenons l'exemple du cocaïnomane abstinent. Un addictologue va lui dire d'abord de ne pas de supprimer de son téléphone portatif les numéros de ses dealers, et puis après de ne pas pouvoir retirer de l'argent liquide parce que ça lui évite ça repousse en fait sa possibilité de consommation. Vous voyez ce que je veux dire? Et je me dis que un couple marié, c'est déjà assez compliqué comme ça, et que là, vous leur fournissez une possibilité immédiate.
Mais ils l'auraient ailleurs, hein. Ils iraient
vous
dans
pensez...
un bar.
Solène Payet.
Oui, mais ça prendrait plus de temps, ça demanderait plus d'efforts, ça demanderait une démarche plus complexe. Alors que là, ça facilite grandement les choses quand même.
Ça fait Solène Payet, vous êtes une facilitatrice d'adultère
on
et peut-être
facilite.
Donc de souffrance.
Non, mais
je
porte pas de jugement là-dessus du
c'est
tout.
Hein. Personne ne pose de jugement ici.
C'est ouais. comme pour la cocaïne, je porte pas de jugement du tout. Mais c'est juste une question que je vous pose, quoi.
En fait, on donne un espace, en effet, privilégié pour que les gens qui sont à la recherche d'aventures extra-conjugales puissent le faire facilement. C'est vrai qu'on facilite les choses. Ouais. Mais
vous avez ubérisé l'infidélité, en gros.
On existait avant Uber. On fête nos 10 ans cette année. Mais en tout cas, quelqu'un qui veut tromper, quelqu'un qui a cette envie, qui a ce besoin, il le fera dans tous les cas et ira le faire peut-être de façon moins raisonnée, moins bien, peut-être avec la meilleure amie de sa femme, avec quelqu'un de la famille. Enfin, ça peut
ou sa belle-fille ou.
Enfin, il peut en tout cas en étant dans le cercle social immédiat, ça peut causer beaucoup plus de problèmes et ouais, avoir au moins un site où on peut rencontrer des gens qui ne sont pas forcément dans son cercle de travail ou cercle familial, ça permet d'éviter certains problèmes et d'apporter beaucoup plus de discrétion.
Mmh. Nicolas Ray, elle vous a convaincu, Solène Payet?
Ah ouais, en plus elle a un super sourire, elle m'a convaincu totalement.
Allez, il est midi 35 sur France Inter, le débat de midi est consacré à l'amour et à la fidélité. On écoute Abel Chéré, Western et Rose.
On fait claquer la porte du saloon. Les figurants aux yeux noirs se retournent. Un silence pesant règne dans la salle. Nonchalant, impassible, on s'installe. à la fenêtre, le spectacle commence. Au loin, la poussière d'une diligence. Deux cow-boys mal rasés, le regard louche. L'arme au poing pour ne pas rater le coche. Sont embusqués de part et d'autre du chemin. Ça va péter, va y avoir du sang sur les mains. Toi, t'as la tienne sur mon revolver. Je ne tiens plus, mon pouce s'accélère. Non, je ne dégainerai pas, je ne dégainerai pas, je ne dégainerai pas. Non, je ne dégainerai pas, je ne dégainerai pas, je ne dégainerai pas. Au passage du convoi très convoité, les deux brigands cinglés font siffler leurs balles. Contre ma cuisse, mon colt est chargé. Tu me regardes et les chevaux s'emballent. Le lourd chariot se renverse sur le côté. Les bagages, les passagers ventrés. Les assassins enfin s'emparent du pognon. Tu me retiens par le bout du canon. Non, je ne dégainerai pas. Je ne dégainerai pas, je ne dégainerai pas. Non, je ne dégainerai pas, je ne dégainerai pas, je ne dégainerai pas. Non, je ne dégainerai pas, je ne dégainerai pas, je ne dégainerai pas. Non, je ne dégainerai pas, je ne dégainerai pas, je ne dégainerai pas, je ne dégainerai pas. Les spectateurs sortent sonner du cinéma. Toi t'as la main dans la poche de mon jean.
Abel Chéré et le très coquin Western Eros. Merci à Thierry Dupin qui a signé la programmation musicale du débat de midi cet été.
Le débat de midi. Nadia Dame sur France Inter.
Et on reparle d'amour et d'infidélité avec des témoignages d'auditeurs qui nous parviennent par milliers ou presque. Le témoignage, je sais même plus par lequel commencer, on en a énormément. Une femme, Irène, qui nous demande s'il n'est pas temps de changer de vocabulaire, tromper, infidèle. La question est peut-être juste de savoir si dans une relation on se ment ou pas, Maya Mazorette.
Oui, c'est une très très bonne question.
Se mentir à soi-même et pas seulement mentir à l'autre.
Oui, et puis aussi se dire que la tromperie n'est pas forcément une trahison, qu'il y a énormément d'autres trahisons qui sont possibles. Effectivement, qu'est-ce que ça veut dire de garder la fidélité sexuelle si la personne ne s'occupe jamais des tâches domestiques, si la personne fait passer sa carrière avant la nôtre? Il y a plein d'autres manières d'être infidèle à son conjoint.
Alors vous parlez de tâches domestiques, c'est intéressant parce que François Creuse, qui est directeur du pôle genre et sexualité de l'IFOP, a noté que les Françaises trompaient plus leur conjoint quand ce dernier ne participait pas aux tâches ménagères. Il y a un lien entre coucherie et charge mentale, infidélité et répartition des tâches ménagères?
Alors, je ne sais pas, mais ce que je pense, c'est qu'effectivement, si on fait monter la pression dans le couple et si ce côté domestique prend toute la place, alors évidemment qu'on va vouloir aller chercher un peu d'aventure, un peu de nouveauté ailleurs.
Nicolas Ray, la fidélité est solide dans l'eau de vaisselle.
Je ferai gaffe à débarrasser la table maintenant.
Hein, vous le faisiez pas avant, vous voulez dire?
Non, mais là, ma vie va changer radicalement, là.
Richard Memto, sur les représentations d'adultère par rapport au genre, on a tendance à penser que l'adultère c'est plutôt un truc d'homme, alors qu'on sait que les femmes trompent et qu'elles sont quatre fois plus nombreuses à tromper qu'il y a une vingtaine d'années. Une analyse sur ça?
Pas vraiment, sauf que effectivement, on sait que les hommes ont tendance à un petit peu surestimer leur conquête sexuelle. Donc là, c'est assez amusant, mais dans le fond, il faut toujours être un peu deux pour tromper. Donc Bon, j'ai pas d'avis, mais je voulais plutôt rebondir sur ce que disait, ce que vous disiez tout à l'heure au sujet de Glidden, parce que je voulais un petit peu les défendre en fait, en disant qu'en réalité,
allez-y, j'en ai bien besoin.
Ouais, mais pas, enfin vraiment, il y a une autre appli d'ailleurs qui fête ses 10 ans, c'est Grindr, mais l'idée c'est dans ces applications aussi de se rendre compte qu'il y avait en fait une sorte de vivier. Il y a tous ces gens qui derrière un petit peu le décor social stridule quoi, sont là très chauds et veulent rencontrer d'autres personnes. Et je pense que effectivement avant on pouvait se le cacher. On pouvait dire que c'était juste pas normal et puis
c'était honteux, voilà, vous voulez dire.
Voilà, on voyait pas, etc. Et ce que font émerger en fait les applications de drague, c'est cette espèce d'envie constante en fait. Il y a une dimension un petit peu orgiaque et dionysiaque dans tout ça qui est assez amusante. Enfin moi c'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire qu'on sait que quand on se connecte peut-être à Glidden, en fait il y a tous les gens qui sont mariés qui quand même cherchent quelque chose. Et d'ailleurs c'est la difficulté particulière du couple, c'est que du coup notre couple est pensé par rapport à un ensemble d'offres. Et il faudrait être toujours sûr qu'on a fait le bon choix, quoi, et que par exemple on n'a pas choisi quelqu'un qui ne sait pas ranger la vaisselle ou ce genre de truc. Donc ça c'est compliqué. Alors qu'avant on avait peut-être un petit peu le confort de se dire bon, il n'y a pas 1000 choix autour de moi, j'ai choisi le premier qui venait ou le deuxième ou le troisième et puis on s'est posé, quoi. Et cette espèce de réflexion constante ou de calcul un petit peu utilitariste, la constante pour savoir si on a maximisé notre bonheur, c'est aussi une des raisons qui fait que les applications sont pertinentes, mais qu'elles vont un petit peu nous pourrir la vie, quoi. Puisqu'elles vont nous renvoyer systématiquement à cette question.
Nicolas Rey, une réaction?
Oui, je suis encore bloqué là sur le lave-vaisselle et les couverts. Et ça me rappelle quelque chose. Lorsque j'étais amoureux de Joséphine, j'étais vraiment capable de absolument tout faire comme tâche ménagère, vous voyez. C'est-à-dire que moi qui suis plutôt un lève-tard, je me réveillais vers 7h du matin. Je préparais le petit déjeuner avec une salade de fruits, etc., un jus d'orange. J'étais capable de faire un barbecue le soir, des grillades. Quand il y avait une fuite d'eau, j'étais le premier au point à essayer d'appeler le plombier, de mettre des trucs pour
résorber la fuite. Vous étiez bon à marier.
Voilà. Et des sauts, etc. Et ça me dérangeait pas du tout. C'est-à-dire que j'avais je dégageais une sorte de drogue en moi, d'endorphine ou de sérotonine qui faisait que j'étais en fait juste hyper heureux.
Étiez accro?
Voilà, j'étais accro.
À Joséphine?
Ouais. J'étais accro. Et par exemple, je vous donne un exemple tout simple. Je suis un gros fumeur. Et ben, Joséphine n'aimait pas trop la cigarette. Je ne fumais pas et je m'en rendais même pas compte. Ça me manquait même pas. C'est-à-dire j'étais dans un état un peu de transe, quoi, voilà. Et dans ces cas-là...
Et la chute et la descente a été dure, donc.
Oui, très violente.
Ça a donné ce roman. Ouais.
Ouais. Sioran disait que un chagrin d'amour, ça faisait d'un apprenti coiffeur un émule de Socrate. Je crois que je suis devenu un émule de Socrate, en fait. Enfin, j'essaye.
Maya Mazorette.
Oui, je pense que là, dans ce cas-là, le circuit de récompense a remplacé la cigarette par l'amour, et c'est plutôt pas mal.
Exactement.
Pour une manière d'arrêter de fumer. Non, je voulais revenir sur la question du genre, parce qu'effectivement, on voit bien que... Depuis 40 ans, l'infidélité, notamment féminine, a beaucoup augmenté.
Alors, je vais donner un chiffre plus précis que ce que je disais tout à l'heure. L'infidélité des femmes a quadruplé en 50 ans.
Voilà, et depuis 50 ans, qu'est-ce qu'on a eu quand même? La pilule et l'avortement qui permettent d'être infidèle sans se retrouver avec ce qui aurait été un bâtard sur les bras. Et sans effectivement perdre son autonomie, c'est-à-dire éventuellement perdre son domicile. Ensuite, avec l'arrivée des femmes en masse sur le marché du travail, l'autonomie financière permet aussi de prendre un risque, qui est qu'ensuite on peut quand même payer son loyer, on peut quand même payer sa nourriture. Et enfin, le différentiel qui existe encore aujourd'hui peut s'expliquer par le fait que les femmes sont encore très socialisées dans les contes de fées, dans l'idée d'un amour qui est absolu, alors que c'est un peu moins
et unique et monogame.
Voilà, exactement.
Solène Payet, une question précise. Pourquoi est-ce que Glidden, l'un des arguments, c'est qu'il a été pensé par des femmes? Pourquoi utiliser ça? Et pourquoi c'est gratuit pour les femmes et payant pour les hommes?
Donc le site est entièrement gratuit pour les femmes. Les hommes peuvent s'inscrire gratuitement également, mais eux doivent faire un système de crédit pour pouvoir parler.
C'est-à-dire, expliquez-nous.
Donc en fait, dès qu'un homme veut, il peut consulter tous les profils qu'il y a sur le site gratuitement, mais dès qu'il veut entrer en connexion avec cette femme, il devra payer des crédits pour lui parler. En fait, on a un peu reproduit ce qui se passe dans la vie réelle finalement. Un homme qui veut draguer une femme, c'est souvent lui qui va faire le premier pas, qui va aller lui proposer un verre.
Pas toujours.
Nous, on a voulu reproduire ce schéma. En tout cas, c'est comme ça qu'on a voulu. Les femmes ont une étape psychologique plus importante, je pense, que les hommes pour passer le cap de l'infidélité. Et le fait de devoir payer, ça aurait été un cap encore supplémentaire qu'on n'avait pas envie de leur mettre. Donc c'est pour ça qu'on a préféré faire ce système-là au niveau business model.
Et un site pensé par des femmes, ça veut dire quoi ?
Donc toute notre équipe est 100% féminine. Donc au quotidien, tout ce qui est blog, articles et tous les éléments de la plateforme, soit du marketing à la communication, c'est pensé par des femmes. Ça a été un site qui a été donc créé par des hommes. Ce sont deux entrepreneurs qui ont vu donc un marché à l'époque en 2009. Mais dès le départ de la création, ils ont remis tous les éléments communication, marketing et technique, sauf la technique, aux femmes, pour que les femmes puissent se sentir bien sur la plateforme.
Richard Memto, une réaction à ces questions de genre et cette répartition de l'infidélité selon les gens?
Ben en fait non, mais c'est amusant que ce soit pensé par des femmes pour des femmes, etc. Parce que c'était déjà un petit peu l'idée d'OkMatch au départ, c'est-à-dire de produire une application, enfin un site, hein, puisque c'était dans les années 90, un site où en fait les femmes puissent se rendre parce que le site était propre et bien éclairé. C'est l'expression qui est un petit peu donnée officiellement pour en comparaison à un restaurant, quoi. C'est-à-dire vous iriez, si vous étiez une femme, vous seriez plus à l'aise dans un endroit. Voilà, c'est rassurant. Et évidemment, on peut comprendre dans les années 90 que ça se passe encore un peu comme ça et qu'il y a cette idée qu'il faille rassurer les utilisatrices parce que les utilisateurs sont nombreux et juste d'ailleurs faire l'expérience de se mettre ou de faire un faux profil d'utilisatrice, c'est quelque chose.
Vous l'avez fait?
Quelqu'un l'a fait. Oui, oui.
Racontez-nous.
On voit ce qui se passe. C'est-à-dire que, bon, après, ça dépend de l'âge qu'on met, mais on est effectivement immédiatement, enseveli, inondé de messages et qui sont pas des messages ultra fins, quoi. Donc, c'est intéressant
de
faire.
On devine à peu près ce que vous,
c'est vraiment, c'est de cet ordre-là. Après, chaque appli, sélectionne un peu, mais là, au fond, je peux pas m'empêcher de me dire, mais Glidden, est vraiment encombré dans un truc qui moi, alors moi je suis gay, donc je me dis mais c'est vraiment la symétrie classique de l'hétérosexualité, quoi. C'est-à-dire c'est toujours les mecs qui vont devoir être comme des espèces de petits prédateurs, de petits exploiteurs.
Ça reproduit quand même des schémas assez ringards et assez réels.
Mais le fait que l'homme doit payer, compenser.
Oui, je disais le fait que l'homme doive donc payer, ça l'oblige aussi à être plus réfléchi dans son approche. Il va pas pouvoir parler à 100 femmes d'affilée en lui envoyant un vieux message, salut, ça va.
Ou alors il faut casser le PEL, ouais.
Exactement. Donc là, le fait de payer par message, ça l'oblige aussi à s'intéresser à cette personne en particulier, à prendre le temps de la séduire et à prendre le temps de trouver les bons arguments pour lui parler.
Richard Memto, vous voulez finir?
Je sais pas, je veux pas non plus critiquer toute l'interface, mais effectivement, un homme riche, par exemple, pourrait juste, comme vous dites, casser le PEL juste pour envoyer des tonnes de messages complètement absurdes et insultants. Je peux pas m'empêcher de me dire qu'il y avait quand même au départ dans ces applications, dans des applications extrêmement simples, parce que la plupart des interfaces sont assez simples, l'idée que simplement si l'autre me parle mal, je le bloque. Et ce qui veut dire que il peut commencer de façon assez catastrophique, mais dans ce cas-là, je lui parle plus et je le bloque. Moi, ça m'énerverait en tant que femme, mais je le suis pas, donc bon, je devrais peut-être pas dire ça, mais d'être pris systématiquement pour une future victime et qu'on me donne la possibilité d'avoir que des hommes.
C'est le côté chasse et pêche un peu de ces sites, c'est ça?
Il faut l'accepter. C'est un petit peu chaotique, mais c'est comme Internet. Je veux dire, Twitter, tout ça, c'est Internet. Je veux dire, c'était l'idée d'une certaine liberté, quoi.
Alors, on a quand même pas mal d'auditeurs qui nous écrivent pour nous dire que eux sont fidèles et qu'ils ont l'impression qu'on décrit une France où tout le monde trompe tout le monde. Un auditeur nous dit ceci, par exemple, je suis peut-être pas le coup du siècle, mais ça fait plus de 50 ans que je vis avec la même femme et je me souviens pas avoir donné un seul coup de canif dans le contrat. Nicolas Rey, vous en connaissez,
pauvre.
Vous, des gens parfaits. Pourquoi la pauvre?
Non, rien, je déconne.
Vous connaissez des gens parfaitement fidèles ou très bons menteurs,
non,
alors?
Non, en revanche, j'aimerais qu'on se recueille quand même quelques secondes sur tous ceux qui trompent leurs femmes, par exemple, quoi. Qu'ils soient espagnols, serbes, serbo-croates.
Ou toutes celles qui trompent leur mari, ou tout.
Oui, mais alors, moi, mon côté tristement masculin, hein, pour ceux qui trompent leurs femmes, je leur donnerais un seul conseil, c'est d'éviter le taxi de 7h du matin, surtout.
Ah, mais pourquoi?
Parce que à 5h du matin, tout est encore possible. Quand on rentre à 5h, le chauffeur de taxi est branché sur FIP, il termine sa nuit, il est tranquille, la femme fait semblant de dormir, on lui dit bonne nuit, voilà. Mais à 7h du matin, Le chauffeur de taxi est déjà un peu tendu, il vient de déposer un type à Roissy, il vous regarde d'un sale œil, il a peur que vous vomissiez sur sa banquette en Sky. Vous arrivez dans le hall de votre immeuble, ça sent déjà la chicorée chez la concierge, il y a Willem l'émergie qui éructe.
Ça sent vraiment le vécu là, ce que vous êtes en train de raconter.
Et là, vous croisez un type, et le type, il est bien le type, il a pas la gueule de bois, il est rasé de près, il y a une nouvelle journée qui commence, il est plutôt de bonne humeur, ça vous fait déprimer à mort. Et là, vous rentrez chez vous, il y a votre fils qui ouvre la porte, il vous dit papa, mais putain merde, il est réveillé. Et là, il y a un mot qui vous attend sur la table de la cuisine. Et si on veut pas un jour avoir à ouvrir ce mot, il faut vraiment éviter le taxi de 7 heures du matin, en fait.
Maya Mazoret, un autre conseil peut-être pour nos auditeurs.
Je suis absolument stupéfaite que Nicolas ait réussi à timer de manière aussi parfaite. Et je souscris complètement au taxi de 7 heures du matin, de réussir à faire ce timing et de laisser quand même la dick pic sur le BlackBerry.
Alors que revoilà la dick pic. Maya Mazoret, une autre question. Est-ce que le stade ultime de l'infidélité, c'est la double vie, où là on n'est plus du tout dans l'infidélité mais dans la duplicité pure?
Oh non, je pense que ça appartient encore à l'infidélité qui, comme je disais, propose un spectre de possibilités absolument énorme. Ensuite, souvent on confond l'infidélité avec le polyamour, et là c'est plus la même chose, puisqu'effectivement un contrat qui est ouvert, dans lequel c'est discuté qu'on peut avoir plusieurs personnes, et c'est éventuellement partagé dans des règles d'honnêteté, font que l'infidélité n'est plus possible puisqu'elle fait plus partie du cadre.
Et encore un témoignage d'une auditrice, c'est une femme qui nous écrit qu'elle sort avec un homme marié et qu'elle en souffre. C'est une question qu'on n'interroge pas tellement, mais la troisième personne du triangle, l'amant, la maîtresse, peut souffrir autant que le légitime trompé, Richard Memto.
En fait, il y a un concept amusant du côté des polyamoureux, d'ailleurs, ce qui est très drôle, moi je le conseille de le lire, hein, c'est le manuel des polyamoureux, l'ancien disons, qui s'appelait la salope éthique. Donc voilà, c'est comment tromper son mec tout en étant effectivement...
Une salope éthique, d'accord.
Voilà, c'est ça. Mais l'un des concepts fondamentaux, justement, pour échapper à la jalousie à chaque fois nécessaire, tout ça, c'est de se dire qu'on peut avoir non seulement de la compassion pour l'autre, mais aussi de la compersion. Alors c'est un concept en fait qui est assez simple, qui dit simplement qu'on doit pouvoir se réjouir que l'autre ait du plaisir.
C'est l'inverse de la jalousie.
Voilà, exactement. Et en réalité, bon, alors, est-ce que les gens y arriveront, y arriveront pas? Certains, je suis sûr, diront, mais c'est naturel d'être jaloux, etc. Moi, je veux bien, mais dans ce cas-là, ça veut dire on pense trop souvent peut-être nos histoires comme une histoire de possession, en fait. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de posséder l'autre? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être possédé par l'autre ou de donner tout à l'autre? Là, c'est ça, moi, que j'ai envie d'interroger. Mais je le ferai pas, je suis pas psy, mais la volonté qu'on a souvent de chercher à être sauvé par l'amour unique d'une personne, me terrifie un peu. Je veux dire, c'est effectivement l'avantage au moins des polyamoureux, c'est que ils se disent que ils n'existent pas uniquement à travers une personne, ou qu'en tout cas ce ne sera pas ce qui les définiront en premier. Voilà.
Maya Mazoret, oui, pardon. Oui, finissez, pardon, je vous ai coupé.
Non, j'avais fini. C'était vraiment sur cette idée de compersion.
Maya.
Et il y a quelque chose de fascinant par rapport à la compersion, c'est qu'on voit sur les sites pornographiques une augmentation du nombre de mots-clés tapés qui sont cocu ou en anglais cuckold, où on regarde des vidéos d'un homme généralement qui offre sa femme à des personnes qui sont le plus souvent noires, afin de jouir de la jouissance de sa femme qu'elle prend avec d'autres hommes. Et ça peut exister aussi dans les clubs parisiens, dans les clubs français.
Nicolas Rey, vous nous avez décrit l'histoire de votre infidélité. Vous êtes aussi jaloux qu'infidèle? Vous êtes une personne jalouse?
Non. En revanche, actuellement, même si, ce que disait Maya, même si mon amoureuse ne me le formule pas, je sens qu'elle est capable de jalousie. Là, par exemple, je suis très mal au dos, je dois me faire masser par un kiné, et elle m'a bien précisé qu'elle espérait que je choisisse un ton, quoi.
J'ai pas compris, pardon.
Elle espérait que je choisisse un ton comme masseuse.
D'accord,
quoi.
C'est voilà. Délicat, c'est frais, c'est printanier.
Ouais. Voilà. Donc, je sens quand même, je la sens assez jalouse, quoi. Elle refusait que ce soit une jolie fille qui me masse. Non, moi, je suis pas quelqu'un de jaloux. Non. Je suis pas quelqu'un de pervers non plus.
Solène Payet? Question très personnelle, vous êtes jalouse? On a parlé de votre infidélité en début d'émission, mais on peut être les deux, infidèle et jaloux.
Non, moi je suis pas forcément jaloux, je pense qu'il faut avoir confiance, et justement il faut pouvoir en parler, et justement mettre des barrières sur ce qu'on accepte ou ce qu'on n'accepte pas,
Et je pense que la communication est vraiment importante pour éviter justement ce genre de situation.
Richard Memetou, je crois que vous avez quelque chose à dire ou à demander à Nicolas Ray.
Oui. En fait, je voulais savoir si justement il n'envisageait pas que son amoureuse, enfin, je veux dire, sa compagne.
L'actuelle.
Exactement. Le trompe lui aussi, ou qu'elle ait elle aussi du plaisir à le tromper.
Ah oui. Écoutez, si ça peut lui faire plaisir, après tout, moi je suis pour qu'elle reçoive du plaisir. Hein. Ça me dérangerait pas. Alors, ce que j'aimerais en revanche, c'est ne pas être au courant. Vous voyez l'illusion pour ne pas mourir de la vérité, comme disait Nietzsche, quoi. Voilà. Mais non, si ça peut la rendre heureuse, si elle peut prendre du plaisir dans cet adultère. Et me revenir quand même et être heureuse à mes côtés, voire plus heureuse parce qu'elle aura trouvé cet équilibre.
Elle nous écoute, Nicolas.
J'en serai ravie.
Elle nous écoute, votre amoureuse.
Oui, elle nous écoute.
Ouais. Ben, on la salue et on l'embrasse. Et on approche de la fin de l'émission.
Mais elle n'est pas obligée de me tromper non plus. Hein,
le message est passé. Voilà. J'ai une dernière question pour mes invités.
Le débat de midi sur France Inter.
La question rituelle du débat de midi au mois d'août, j'aimerais savoir avec quelle personnalité vivante ou disparue, célèbre ou anonyme, vous aimeriez pouvoir débattre, parler d'amour ou d'autre chose d'ailleurs. Maya Mazorette.
Moi, j'aimerais bien parler d'amour, de fidélité, d'infidélité avec Alcibiade, ce qui nous ramène un petit peu en arrière. Donc c'est un homme d'État, un guerrier et surtout un absolu beau gosse de la Grèce antique qui manifestement ne pouvait absolument pas s'empêcher de coucher avec les épouses des hommes politiques avec qui il s'était traité. Ça l'a mis dans des chaos absolument incroyables et je serais curieuse d'en parler avec lui.
Richard Memetou, même punition, même question.
Ben oui, normalement pour compléter j'aurais dû dire moi avec Socrate, mais en fait j'aimerais bien parler avec Michel Foucault en fait. Parce que justement je crois que je serais pas très d'accord, mais quelque chose me dit qu'il reçoit bien ses invités. Donc...
Solène Payet.
Moi, ce sera avec Joséphine. Pas Joséphine de Nicolas.
Pas celle
mais,
de Nicolas.
Non, Joséphine de Beauharnais. C'est une femme qui, à l'époque, avait pris un amant, bien qu'elle était mariée à Napoléon. Et on l'a pris comme égérie de nos dernières campagnes, justement, pour montrer ces femmes fortes dans l'histoire qui, malgré les normes sociales de l'époque, assumaient quand même leurs envies et leurs
désirs. Et leur sexualité.
Exactement.
Nicolas Ray, j'ai très très hâte d'entendre votre réponse.
Ce serait avec Claude Sautet.
Parce que table et autour d'une bouteille, donc,
j'imagine. Oui, avec grand plaisir. Parce que je trouve qu'il filme l'amour comme personne. Et puis il y a ce plan magnifique dans Nelly et Monsieur Arnaud, où en fait Michel Serrault ne commet pas l'adultère, ne trompe pas Emmanuel Béart, mais ne trompe personne avec Emmanuel Béart, mais juste il se rapproche de son lit. Et il effleure juste son dos et c'est un plan qui est magnifique et qui veut tout dire. C'est comme s'il faisait l'amour puissance 10 000 alors qu'il se passe rien. C'est bouleversant.
C'est une très belle chute pour cette émission. Merci à tous les quatre pour votre participation. Un grand merci à Lucie Lemarchand qui a réalisé l'émission. Demain, au menu du tout dernier débat de midi de l'été, on appelle la Fashion Police, comment s'habiller éco-responsable et éthique.